Cette semaine, on part en Syrie puisque le pays tente de se reconstruire avec l'aide de l'Arabie Saoudite.
Cap aussi sur Cuba, au petit port de Mariel, à 45 km de la Havane, devenu le symbole d'un pari économique raté.
On parlera aussi de l'insécurité grandissante au Sahel et d'un discours de Vladimir Poutine qui, en 2007, prédisait tout ce qu'on vit aujourd'hui.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans L'Ordre du Monde, le nouveau podcast géopolitique de BFM Business. Je suis Annalisa Capellini.
Bonjour à tous, moi je suis Mathieu Jolivet. Nous sommes tous les deux chroniqueurs internationaux sur BFM Business et chaque semaine, on va vous raconter ce monde qui bouge à vitesse grand V.
Alors Mathieu, donc cette semaine, tu nous amènes à Cuba. On a beaucoup parlé de Cuba cette semaine dans l'actualité, mais toi, comme d'habitude, tu trouves une petite porte un peu défilée et c'est le port.
Oui. Oui, tu vas voir, en fait, parce qu'effectivement, Cuba est totalement asphyxié par Donald Trump, donc on quitte la France, on traverse toute l'Atlantique. Là, on va zoomer sur notre île de Cuba, et là, je t'emmène à 45 km à l'ouest de la Havane. Je t'emmène dans le petit port de Mariel. Ce port, il m'intéresse car il symbolise beaucoup de choses aujourd'hui. Déjà, il symbolise l'émigration massive des Cubains vers la Floride. Je te ramène au printemps 1980, à l'époque Castro, et depuis longtemps, la bête noire assumée de Washington, hein, c'est depuis la baie des cochons, la crise des missiles, etc. Donc Cuba est sous embargo américain et c'est totalement arrimé à l'URSS. À l'époque, tu as en Floride une diaspora cubaine qui est anticastriste. Elle est très organisée et en fait, elle milite pour la chute du régime. Donc pour te remettre dans le contexte, en 80, tu as un Fidel Castro qui est vieillissant, mais il est encore très installé à la Havane. Et il est à la tête d'un pays qui est en pleine tourmente économique. Et en face, tu as aux États-Unis Jimmy Carter, le président des États-Unis, qui lui est affaibli par la crise des otages en Iran et par l'image d'une Amérique qui est totalement impuissante. Et donc, dans ce contexte, tu as Castro qui va surprendre le monde entier parce qu'il va ouvrir une fenêtre de tir. Il annonce que tous ceux qui veulent quitter Cuba peuvent le faire, mais par un seul endroit, c'est par ce petit port de Mariel. Et là, pendant à peu près 7 mois, tu vas avoir 125 000 Cubains en très peu de temps qu'on va appeler les Marielitos et ils vont débarquer en Floride, principalement à Miami.
En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est immense. 125 000, c'est, pour l'époque, c'est aujourd'hui...
Ouais, vu la taille de Miami, c'est énorme. Ouais, c'est un tsunami qui débarque. Il faut voir qu'à Miami, la main-d'œuvre locale, elle augmente de 7% quasiment du jour au lendemain. Donc, si tu suis la logique économique, tu te dis, c'est un tsunami de travailleurs cubains un peu qualifiés, ça va laminer le marché du travail. Eh ben non, tu vas voir. C'est là qu'entre en scène un économiste. Il s'appelle David Card. Des années plus tard, en 1990, il va utiliser ce choc migratoire des Marielitos comme un laboratoire à ciel ouvert. Il va comparer Miami à d'autres villes américaines similaires qui, elles, n'ont pas connu cette vague de réfugiés. Et ses résultats, ils sont hyper intéressants. Malgré une telle vague migratoire, David Card constate que les salaires ne s'effondrent pas, que le chômage n'explose pas. En fait, l'économie de Miami, elle va encaisser le choc, elle va se réorganiser. Et c'est tellement contre-intuitif que cette étude est devenue un véritable classique qui est cité partout. Et David Card obtiendra même le prix Nobel d'économie en 2021 pour tous ses travaux sur le marché du travail. Et tout ça, Annalisa, eh bien, ça part de ce petit port discret sur la carte, le port de Mariel à Cuba, qui est devenu ce cas d'école sur l'impact réel de l'immigration sur une économie locale.
Alors jusque-là, Mathieu, tu ne m'as pas parlé de business, mais comme je te connais, je sens qu'il y a derrière des enjeux économiques pour ce port de Mariel.
Bah oui, parce que Cuba va vouloir faire du port de Mariel un hub maritime régional, un mini Panama cubain branché sur toutes les routes maritimes. Le port de Mariel, il est en face de la Floride, il a un carrefour entre le canal de Panama, tu peux le voir sur la carte, hein, pour ceux qui nous regardent, avec la côte est des États-Unis et l'Europe. Donc si un jour les relations se normalisent avec Washington, c'est le port qui est peut-être le mieux placé pour capter une partie du trafic des conteneurs dans les Caraïbes. Et c'est pour ça qu'en 2010, Cuba va se lancer dans un gigaprojet. Hein. Il s'agit de creuser très profondément le port de Mariel pour en faire un port capable d'accueillir tous les énormes porte-conteneurs qui sortent du canal de Panama, qui lui a été élargi. Les Brésiliens ont investi près $1 milliard au port de Mariel. Les Chinois ont fourni des grues, ont construit autour toute une zone spéciale de développement. Donc tu as ce nouveau hub maritime de Mariel qui va être inauguré en grande pompe. Ce sera en 2014 par Raul Castro, avec à côté de lui la présidente brésilienne de l'époque, Dilma Rousseff.
Et depuis, ça marche ou pas?
Eh ben non. En fait, en 2026, le port de Mariel, il ressemble surtout à un pari économique raté. L'économie cubaine, on voit, totalement asphyxiée. Elle a perdu toute la rente vénézuélienne. Le kérosène n'arrive n'arrivent même plus dans les aéroports de Cuba depuis cette semaine. Donc cette zone de Mariel, elle attire beaucoup moins d'investisseurs que prévu, à peine quelques dizaines d'entreprises en 10 ans. Ça a été freiné par le manque de financement et l'insécurité juridique de l'île. Maintenant, ben, on sait que Trump aussi, il a Cuba dans son viseur. Il est en train de mettre l'île sous une pression maximale. Si la Havane finit par lâcher, ce port de Mariel, en fait, c'est ça qui est intéressant, il pourrait devenir un des lieux les plus stratégiques pour toutes les entreprises américaines qui se tiennent prêtes en ce moment à fondre sur l'île de Cuba si jamais la Havane finissait par céder à la pression de Donald Trump.
On va le suivre avec attention parce que c'est vrai que Donald Trump disait que Cuba allait tomber tout seul en quelques semaines. C'est vrai qu'en ce moment, l'économie cubaine est vraiment asphyxiée. Ouais. Donc,
et c'est un trophée qu'il aimerait bien accrocher pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis qui veut fêter en grande pompe en juillet prochain. Mais ça, on va en reparler. Toi, Annalisa, ton alliance stratégique de la semaine, ça concerne la Syrie et l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est une alliance au Moyen-Orient. Eux, ils en parlent comme un partenariat stratégique. Et la réalité, c'est que la Syrie et l'Arabie Saoudite ont signé toute une série d'accords communs. Il y a vraiment de tout dedans. Il y a de la coopération économique, il y a de la coopération au développement. Mais surtout, il y a une partie sur les infrastructures. Alors, il y a une compagnie aérienne. Ils vont créer une compagnie aérienne commune, les Syriens et les Saoudiens. Une compagnie low cost qui va s'appeler NAS Syria, mais surtout au-delà de cette compagnie aérienne dont vous allez entendre peut-être parler dans l'actualité ces prochaines semaines, ils se sont mis d'accord sur la construction d'un nouvel aéroport à Alep, dans le nord de la Syrie, et puis pour faire des travaux dans l'aéroport actuel. Et aussi pour mettre au niveau les infrastructures télécoms de la Syrie. Donc, tu vois, tout ça, c'est hyper important. On parle d'un milliard de dollars.
Beaucoup de contrats à la clé. Ils avaient déjà signé un partenariat récemment, non ?
Exactement. Ils avaient signé un partenariat cet été, au mois de juillet. C'était 6 milliards de dollars à l'époque, par le moyen d'un forum d'investissement syro-saoudien. Mais en fait, tu vois là, ça va vraiment plus loin parce qu'on touche aux infrastructures syriennes. La Syrie est évidemment complètement détruite après des années de guerre civile.
Donc derrière, tu as l'enjeu de la reconstruction qui est phénoménal.
Exactement. Ça va être un chantier absolument immense. On parle de 216 milliards de dollars de reconstruction. C'est la Banque mondiale qui donne ce chiffre. Donc, 216 milliards de dollars, c'est 10 fois le PIB de la Syrie, pour te donner un ordre d'idée de à quel point ce chiffre est monumental. Et il y a une évidence, surtout que les Syriens ont compris très bien, c'est que les aides humanitaires et les aides internationales ne vont pas du tout être suffisantes pour couvrir en fait tous les besoins de la Syrie. Et surtout, qu'il y a une question de temporalité. Il faut une reconstruction durable, qui marche, qui s'installe dans la durée. Et ce qu'il faut éviter, le danger que les Syriens veulent éviter aussi, c'est d'avoir le même destin que l'Afghanistan, que l'Irak. Donc d'être abreuvé d'argent en provenance de l'Occident, des institutions occidentales, et donc à la fin de ne pas arriver à reconstruire quelque chose de solide. Ça, Al-Shara l'a dit, le nouveau président syrien l'a dit il y a quelques mois, nous voulons reconstruire la Syrie par l'investissement et non pas par l'aide et par l'assistance. Donc, tu vois que c'est une différence fondamentale là-dessus.
Et donc, en fait, il faut vraiment des investissements qui soient à la hauteur des enjeux.
Exactement. Et d'ailleurs, des investissements que les alliés traditionnels de la Syrie ne pouvaient plus lui fournir. La Russie, évidemment, n'est plus en mesure de fournir des aides aussi précieuses, aussi importantes à la Syrie. Les Syriens et les Russes continuent de se parler. Al-Shara était à Moscou encore il y a quelques jours. Et les Iraniens non plus. Ils sont en difficulté, les Iraniens, en ce moment. Donc, la Syrie sort définitivement du cercle d'influence, on va dire, russo-iranien, et rentre définitivement, ou pas en tout cas durablement, dans l'orbite américaine et donc aussi dans l'orbite saoudienne, évidemment.
Et on voit bien justement, quand tu parles de l'orbite saoudienne, que Riyad a une carte à jouer dans cette histoire.
Absolument, parce que Riyad, on se rappelle, en ce moment est à couteau tiré avec Abu Dhabi. Il y a une vraie rupture de l'alliance entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Donc évidemment, la Syrie, qui est un pays à reconstruire totalement, devient un champ de bataille hyper précieux. Et c'est là aussi que se joue la rivalité entre les deux pétromonarchies.
Pétromonarchie, c'est compliqué
c'est
à dire.
Hein. J'arrive. Entre les deux pétromonarchies du Golfe. Ça y est.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est passionnant à t'écouter, de voir un peu comment les lignes bougent dans cette région totalement explosive, et voir aussi comment MBS, patron de l'Arabie Saoudite, est en train de placer ses pions
là-bas.
Mohamed
Ben Salman.
Ouais, c'est un peu le maître du monde, enfin le maître de cette région.
Oui, le prince héritier saoudite qui a beaucoup, beaucoup de cartes à jouer. Et pour ton choix, Mathieu, de cette semaine, tu nous emmènes en Russie, mais alors c'est la Russie de 2007.
Oui, j'avais envie de te parler d'un discours de Poutine que je trouve fascinant. Je vous invite tous vraiment à aller l'écouter. On peut le retrouver sur Internet. Vous avez des liens YouTube. Ça dure une demi-heure. C'est assez fascinant parce que nous sommes en février 2007 à la conférence de Munich sur la sécurité qui justement s'est tenue, là, se tient cette semaine aussi en 2026. On est dans la salle à Munich, hein, et vous avez tout ce que l'Occident compte de dirigeants comme Angela Merkel qui est là-bas, des diplomates, des militaires, et sur scène, tu as Vladimir Poutine. Et ce jour-là, je t'assure, tu as les participants qui vont l'écouter, ils vont tous être médusés, ils vont même ressortir totalement groggy de ce discours. En fait, ils écoutent un homme, Vladimir Poutine, qui se dit totalement encerclé. C'est son sentiment. Et surtout, un homme qui annonce presque mot pour mot le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour Poutine, il le dit alors, tout commence le 17 mai 1990, le jour où le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Manfred Werner, va prononcer cette phrase, je cite, « Ne pas déployer les troupes de l'OTAN à l'extérieur du territoire de l'Allemagne de l'Ouest donne à l'Union soviétique des garanties sûres de sécurité. » Et donc, 17 ans plus tard, en 2007, Poutine à Munich pose la question qui est au cœur de son discours, où sont aujourd'hui ces garanties de l'OTAN ?
Bah, en fait, quand on suit la logique de Poutine, on se rend compte que l'Occident a un peu trahi sa promesse sur ce point-là.
Voilà, en fait, pour Poutine, l'OTAN ne s'est pas arrêtée à l'Allemagne, ses troupes se sont rapprochées de la Russie vers l'Est, et il conclut dans son discours en 2007, l'élargissement de l'OTAN est une provocation sérieuse, dit-il. En fait, Munich 2007, c'est le moment où la Russie dit officiellement « je ne me sens plus en sécurité ». Munich 2007, c'est déjà la justification des guerres qui vont venir de Géorgie, de Crimée, du Donbass, puis de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Munich 2007, c'est déjà cette musique de l'encerclement, de la paranoïa stratégique, l'idée que Moscou ne fait que répondre à une menace occidentale, l'argument qu'on nous sert aujourd'hui.
Alors c'est marrant parce qu'en 2007, on est encore dans une logique d'affrontement entre les États-Unis, la Russie et les États-Unis sont encore la puissance dominante, et peut-être la seule, puisque les Chinois ne sont pas encore vraiment aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui.
Ouais, exactement. En fait, Poutine attaque dès 2007 ce qu'il appelle le monde unipolaire. Hein. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Le monde d'un unique maître, les États-Unis, dit-il, qui n'a rien à voir avec la démocratie. Hein. Il va défendre la démocratie dans son discours. Ce passage est assez essentiel parce qu'il parle, en fait, Poutine, aux pays émergents à l'époque, à ceux qui se sentent méprisés par l'ordre occidental. Et il avance un argument chiffré. Le PIB combiné de l'Inde et de la Chine dépasse déjà celui des États-Unis et ce fossé va s'élargir, prévient-il en 2007. Et en fait, c'est effectivement ce qu'il se passe aujourd'hui. Pour ceux qui nous regardent, c'est assez dingue ce graphique, puisque en 30 ans, le poids de l'Union européenne a fondu de moitié, alors que le poids de l'Inde et de la Chine, lui, a triplé. Tu vois, c'est vraiment cette bascule géoéconomique qui est assez folle. Finalement, en 2007, Poutine annonce la fin du monde occidental dominant, l'avènement d'un monde multipolaire. Là encore, ça s'est traduit en août dernier, en 2026, par 20 chefs d'État, dont Poutine et Modi, qui étaient réunis autour de Xi Jinping, c'était à Tianjin.
Et alors, je t'ai entendu en parler cette semaine dans les couloirs de la rédaction, donc je te pose cette question. Tu disais que, en fait, Poutine, à l'époque, condamnait le nombre de conflits dans le monde.
Oui, alors ça c'est vraiment comble de l'histoire. Écoute bien cette phrase que dit Poutine en 2007. Il dit « Nous sommes en présence de l'emploi hypertrophié, sans aucune entrave, de la force militaire qui plonge le monde dans un abîme de conflits successifs. Hein, » alors que lui-même va initier un nombre de conflits par la suite. Sauf que presque 20 ans plus tard, là je te ramène en juillet dernier, on a notre ancien chef d'état-major français, Thierry Burkhardt, qui parlera d'un effet cliqué. Ce qu'il explique, ça c'était il y a quelques mois, il explique que les crises, maintenant, elles ne se succèdent plus, mais elles s'empilent. Il y a 30 ans, la France, elle comptabilisait 30 conflits armés dans le monde, avec un niveau jugé assez élevé. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est 120 conflits.
Oui.
4 fois plus.
Une accumulation incroyable.
Les crises s'empilent.
C'est très intéressant ce discours, ça nous donne vraiment la mesure de la pensée de Vladimir Poutine qui était déjà bien présente.
Très présente et officiellement en fait. Voilà. Et puis même, c'était même en germe, même bien avant 2007, avec sa nostalgie de l'Empire. Mais vraiment, on sent que c'est là que ça s'est cristallisé, qu'il a officiellement annoncé sa vision du monde devant ce parterre de dirigeants médusés, premier rang desquels Angela Merkel. Toi, ton choix cette semaine,
Anna. Tiens, donc
Anna.
On va parler d'un conflit latent ou pas. Je t'emmène au Sahel.
Ah.
il y a quelques jours. Ça nous permet d'ailleurs de répondre à la question d'un de nos auditeurs téléspectateurs qui nous suit sur YouTube, je crois, qui nous demandait de parler du Sahel et de l'AES.
Merci pour votre question. Effectivement, Annalisa l'a tout de suite percuté la semaine dernière. Elle dit, mais il a raison, il faut qu'on en parle.
Oui. Il faut qu'on en parle, effectivement. Vous avez sans doute vu qu'il y a eu une attaque à l'aéroport de Niamey, au Niger, qui a été frappée par l'État islamique au Sahel. Donc, cette attaque, elle est très importante, non pas par son ampleur, mais parce qu'elle met un coup d'arrêt au narratif de cette AES, cette alliance qui a été créée en 2003, pensée en 2003, et qui lie le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc dans la partie ouest de l'Afrique.
Dans les trois pays, il y a eu des putschs, en fait.
Voilà, t'as raison de le souligner, c'est effectivement une des choses qui les lie. Les trois pays sont dirigés par des juntes militaires, et les trois font face aussi à la menace djihadiste. Donc l'idée de cette alliance, c'est de créer une sorte de protection, de devoir d'assistance, il y a un devoir de secours. Donc voilà, de recréer une stabilité dans cette région qui est toujours très compliquée. Pour te faire un exemple, ils ont parlé aussi il n'y a pas longtemps de créer une armée unifiée. L'idée, c'est vraiment de sécuriser cette région. Mais cette attaque-là de l'aéroport de Niamey, elle vient casser l'idée, le narratif de ces trois régimes. C'est que, non, le Sahel n'est toujours pas sécurisé. On a un chiffre donné par l'Africa Center for Strategic Studies qui nous dit que cette région-là concentre 55% de la létalité terroriste de tout le continent africain. Et donc t'imagines, c'est immense. Et il y a un nombre de victimes en hausse.
Et pourtant, on voit bien que ces régimes, ils ont quand même mis le paquet dans la lutte contre le terrorisme.
Alors oui, dans la lutte contre le terrorisme et
le djihadisme.
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et surtout, c'est vraiment un tournant sécuritaire. Sauf que ce ton très dur qu'ils ont choisi de donner, cette volonté d'indépendance, en fait, les éloigne du reste du continent africain. Les trois pays ont quitté la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Les trois envisagent de créer une monnaie alternative au franc CFA. On sait que le franc CFA est très critiqué parce qu'il est symbolique du passé colonial. Donc, la coopération devient très, très difficile avec le reste des pays de la région. Ils s'accusent mutuellement. Et donc, sans doute, ça joue aussi dans le fait qu'il est de plus en plus difficile de combattre le djihadisme de manière efficace, parce qu'il faut une coopération régionale.
S'affranchir du franc CFA, tu nous dis, c'est aussi des pays qui ont rompu avec l'Occident et en particulier avec la France.
Bien sûr, il y a un héritage colonial, post-colonial qui est très lourd dans cette région-là. Et donc désormais, ces pays-là qui rejettent de manière compréhensible l'Occident et la France vont devoir compter sur d'autres alliés. Donc évidemment, quand on pense à l'Afrique, on pense souvent à la Chine, mais il y a aussi la Russie qui est encore très bien acceptée dans cette zone-là. Il y a les pays du Golfe, pourquoi pas. Donc tu vois, ils vont devoir aller chercher d'autres alliés. Ils ne vont pas avoir trop de mal à trouver des régimes qui les supportent, parce que c'est une région très très riche en ressources naturelles. Au Mali, par exemple, il y a de l'or, il y a du lithium. Au Burkina, il y a de l'or aussi. Au Niger, il y a de l'uranium. On le sait avec tous les scandales liés à la France et à l'uranium nigérien. Donc voilà, il faut vraiment surveiller cette région-là, cette zone-là du monde, parce que malgré le narratif de l'AES, ça reste quand même hyper instable.
Et on sait que cette région du Sahel, en tout cas, elle est surveillée de très très près par tous les services français et occidentaux, parce que quand t'écoutes, on comprend bien qu'il y a un enjeu aussi sécuritaire pour le territoire qui est très 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 fort là-bas, avec ces poches et ces germes de djihadisme très actifs dans la région.
Dis-moi, Mathieu, qu'est-ce que tu mets dans ton radar pour cette semaine?
Alors moi, dans mon radar de la semaine, je vous invite à tous surveiller, je vous donne rendez-vous tous le 24 février à 21h heure française. Ce jour-là, tous sur nos écrans, on va écouter le discours de l'État de l'Union de Donald Trump. Ça, je l'ai mis sur mon radar parce que je trouve que ça va être vraiment hyper intéressant de guetter quelle tonalité aura son discours avant les midterms. On va voir si Donald Trump va radicaliser encore plus son discours pour galvaniser sa base MAGA, ou est-ce que il va mettre un petit peu d'eau dans son vin, parce que il va prononcer son discours de l'État de l'Union dans cette période très particulière aux États-Unis, où en même temps, à l'extérieur, on voit il est dans une offensive assez spectaculaire pour essayer de sécuriser son hémisphère occidental et appliquer sa fameuse doctrine Monroe. Mais en même temps, on voit que pour la première fois, il est quand même très bousculé sur le plan intérieure. Oui. Il faut gérer en même temps les scandales liés à sa police ICE et les personnes qui ont été tuées par cette police à Minneapolis et bousculées aussi par ce scandale Epstein dont on reparlera sûrement dans un autre podcast parce que c'est un sujet qui dépasse maintenant les frontières et qui devient presque un sujet aussi géopolitique. Donc voilà, on va écouter la tonalité de ce...
Ouais, c'est le ton qu'il faut écouter là.
Ouais, exactement, du discours de l'État de l'Union 24 février. Toi, c'est quoi ton radar cette semaine, Annalisa ?
Dans mon radar, je mets le Baloutchistan. Alors, je sais que c'est un sujet qui te passionne aussi, on en a déjà beaucoup parlé. Le Baloutchistan, c'est une des quatre provinces du Pakistan. C'est la province la plus occidentale, donc elle est à la limite avec l'Afghanistan et l'Iran. Donc, c'est la plus éloignée de l'Inde. Et pourquoi il faut la surveiller ? Parce qu'il y a eu un nouveau regain de violence au Baloutchistan. En fait, ça fait des années que des rebelles de la Baloutchistan Liberation Army se battent contre le gouvernement d'Islamabad. L'armée pakistanaise qui a étouffé ses actions dans le sang. Il y a eu plus de 200 morts, il y a eu une trentaine de civils. Alors effectivement, ça fait des années que ça continue, mais là, on a vraiment l'impression avec ces attaques qu'elles étaient en fait tellement bien organisées, tellement bien coordonnées, que en fait, on est peut-être plus dans un stade de guérilla, on a monté d'un cran dans la violence. Tu vois, la nature des affrontements n'est plus la même. Et d'ailleurs, ces affrontements-là visaient surtout Gwadar, qui va t'intéresser parce que c'est un port stratégique dans la coopération entre le Pakistan et la Chine. Ça fait partie du corridor économique entre Islamabad et Pékin. Et donc, vous voyez, les rebelles s'attaquent vraiment au cœur de la projection pakistanaise sur la scène internationale. Évidemment, tu sais bien, le Pakistan...
Il accuse l'Inde, j'imagine, d'être derrière tout ça.
Ouais. Évidemment, ils accusent les Indiens d'être derrière tout ça, d'encourager, voire d'armer carrément les rebelles dans un contexte, évidemment, de tensions croissantes avec l'Inde. New Delhi rejette pour l'instant les accusations, mais évidemment, il y a un vrai sujet entre le Pakistan et l'Inde, à tel point que le Pakistan va boycotter le match prévu ce week-end. C'est un match de Coupe du Monde de cricket. Alors, le cricket, on sait qu'au Pakistan et en Inde, c'est vraiment un sport...
Ça aussi, c'est géopolitique, le cricket.
Mais bien sûr, c'est comme le foot chez nous, c'est comme si l'Allemagne boycottait à la finale de la Coupe du Monde contre la France. Donc c'est hyper symbolique et il faut bien surveiller cette région parce que c'est là aussi que se cristallisent les tensions entre le Pakistan et l'Inde qui sont deux immenses puissances asiatiques et surtout deux puissances nucléaires.
À surveiller, passionnant et à surveiller. Voilà l'ordre du monde, c'est déjà terminé. On vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets géopolitiques.
Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire, à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast.
Écrivez-nous, on vous lit avec attention et puis vous avez souvent des bonnes idées, des suggestions qu'on reprend.
Et donc, on vous attend la semaine prochaine.
Salut à tous.
Au revoir.
Bizarre.